Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On continue ce matin notre série sur les territoires sans ménagement avec le très contesté barrage du Testé dans le Tarn. Ben Lefeuté, j'aimerais qu'on revoie avec vous les grandes étapes de cette histoire du barrage de Sivens. Vous vous y êtes engagé au début de l'année 2013, c'est-à-dire que ce n'était pas exactement le début, mais vous connaissez bien l'historique. C'est une histoire en tout cas étonnante parce qu'elle a pris des proportions complètement inimaginables au regard de ce qu'elle représentait, de ce qu'elle impliquait. Il s'agissait de faire un barrage sur une minuscule petite rivière, le Tescou, dans la région du Tarn. Un barrage qui aurait servi à alimenter une poignée d'agriculteurs. Et voilà que ça prend des proportions absolument ahurissantes, avec des déchaînements de violences policières, avec un choc et qui déferle sur toute la France et qui fait que la mobilisation devient gigantesque et les gens viennent d'un peu partout. Alors, on reprend ?
Ah oui, c'est vrai que la mobilisation et la situation dépassent largement l'ampleur du projet lui-même, parce que ça reste effectivement, on n'est pas Notre-Dame-des-Landes, hein, ça reste une zone humide qui est certes très importante ici pour le territoire, puisque c'est une zone humide à l'origine de 20 hectares, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est 2500 hectares, je crois. Donc on ne parle pas quand même de la même chose en termes d'ampleur du projet. C'est un barrage, effectivement, qui n'est pas comme les grands barrages dans les Pyrénées. Le projet de Charlas, par exemple, qui était au moins 10 ou 20 fois plus gros. Mais en fait, c'est un projet qui crée une telle mobilisation parce qu'il est symbolique et il est aussi, surtout, le premier d'une longue série. Et donc, ça fait apparemment bien une quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu des barrages comme ça réalisés pour l'irrigation dans le sud-ouest. Beaucoup pensaient que ce type de barrage ne se ferait plus. Et au contraire, là, il y a celui de Sivens qui est donc l'objet de cette lutte. Mais on nous annonce une relance de ces projets, de ces barrages pour l'irrigation. On nous parle là d'une dizaine qui sont à peu près annoncées, visibles, avec des études déjà réalisées. Mais on nous parle maintenant de 80-100 barrages dans les prochaines décennies. C'est-à-dire que il y a des études menées par l'Agence de l'eau. Alors on pourrait y revenir parce que c'est justement moi ce qui m'anime notamment dans cette lutte. Ce qu'on a vécu nous ici, ce qu'on vit comme problème sur ce petit bassin du Tescou est en train de se reproduire sous nos yeux à l'échelle du bassin d'Ourgue-Garonne, qui est un très grand bassin qui touche à peu près trois régions, enfin la région Aquitaine, Midi-Pyrénées et certains départements de Poitou-Charentes. La manipulation qu'on vit, nous, ici, d'un constructeur de barrages qui vient faire des études, qui manipule des études en exagérant les déficits en eau, en écartant d'autres alternatives pour pouvoir bénéficier du marché du barrage par la suite, pour moi, est en train de se dérouler à l'échelle plus large d'Adour-Garonne.
Alors, explication. Qu'est-ce que c'est que ce constructeur de barrage ? En fait, là, vous parlez de la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne qui a fait la première étude. C'était quand ? C'était en 2001, c'est ça ?
Oui, en fait, l'étude la plus récente sur laquelle s'appuient les élus aujourd'hui dans le Tarn, c'est une étude qui date de 2001. Donc la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, la CACG, comme on l'appelle, est le bras armé de l'État après-guerre pour développer l'irrigation dans le sud-ouest. Elle s'est développée d'abord, elle a agi d'abord dans le Gers, hein, principalement. C'est ce qu'on appelle le système Nest, avec tous les canaux qui ont été faits au pied des Pyrénées pour alimenter l'irrigation dans le Gers et un peu sur les côtés. C'est là qu'elle a principalement agi. Il y avait carte blanche de l'État au niveau des financements pour développer tout ce système, qui a apporté sans doute des résultats très satisfaisants et qui a effectivement développé, soutenu l'agriculture là-bas. C'est sans doute allé trop loin, puisque ça a créé plein de problèmes par la suite au niveau des ressources en eau. J'ai vu une thèse récemment qui disait qu'à l'époque, quand un agriculteur demandait effectivement à pouvoir bénéficier de l'eau pour l'irrigation d'un hectare de culture, la CACG lui donnait les moyens d'en irriguer 5. Donc il y avait une incitation à consommer effectivement de plus en plus d'eau. Et c'est ce qui a donné, je pense, le résultat qu'on connaît aujourd'hui dans le Sud-Ouest et depuis des décennies, c'est-à-dire des gros problèmes d'eau pendant l'été, puisqu'il y a une très, très forte consommation d'eau, bon, notamment avec la monoculture du maïs.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est ce qui a donné aussi ces immenses étendues de maïs sur tout le territoire.
Oui, alors c'est encore plus flagrant dans le Gers, les Landes, enfin, dans vraiment la partie ouest de Midi-Pyrénées et Aquitaine, où il y a des immenses étendues de maïs en monoculture. Hein, vraiment, les producteurs sont des producteurs uniquement de maïs, sans rotation, etc., ce qui pose plein de problèmes agronomiques également. Et puis, vous avez pendant l'été, 80% de l'eau consommée dans les rivières est destinée à l'irrigation. Donc ça pose plein de problèmes de conflits d'usage, avec des restrictions, avec des rivières qui sont asséchées, des gros problèmes sur les milieux aquatiques. Voilà, ça, c'est la rançon, c'est le prix à payer de cette politique étatique de l'après-guerre, qui a été également soutenue par l'Europe lors des années 80, où ceux qui irriguaient du maïs avaient des meilleures primes européennes que ceux qui maintenaient effectivement des élevages à l'herbe, etc.
Mais la CACG, disiez-vous, Ben Lefeuté, avait plus ou moins remisé ce genre de pratique de barrage qui permettait cette irrigation et cette culture extrêmement intensive.
D'après ce que j'ai compris, la CACG s'est retrouvée avec des baisses de financement de l'État dans les années 80-90. Donc au niveau des investissements, c'est-à-dire qu'avant, elle avait les moyens financiers publics de développer des barrages vraiment à grande échelle, un peu partout. Mais il y a eu d'autres priorités, des économies aussi de financement public. Et donc elle s'est retrouvée à un moment donné avec des ressources qui venaient uniquement de l'achat de l'eau par les irrigants. Et le problème de dépendre de l'achat de l'eau, c'est que les années où il y a des bons orages et que pendant l'été, les irrigants n'ont pas besoin de consommer beaucoup d'eau, les factures baissent et la CCG s'est retrouvée en difficulté financière. Donc ils ont commencé à chercher d'autres marchés, à aller dans d'autres départements et c'est notamment comme cela qu'ils se sont retrouvés dans le Tarn, à prospecter des lieux pour faire des nouveaux barrages. Et donc, d'après ce qu'on voit dans l'historique du barrage de Sivens, dès les années 80, la CACG est venue faire des études de faisabilité. En 89, je crois, il y avait une étude de faisabilité précisément sur le barrage de Sivens. Alors, il y avait eu, dans les années 60-70, un projet, là, plus, en tout cas, affiché comme un projet de loisir, avec la forêt de Sivens, un golf, etc. Et donc, il était prévu un lac de loisirs à cet endroit-là, qui avait été refusé par tous les agriculteurs du coin, qui était un projet destiné à une minorité de financiers, déjà à l'époque, qui voulait faire un coup au niveau du développement de loisirs, au détriment des agriculteurs du coin. Donc, ça n'avait pas pu se faire. La CACG, en tout cas, elle est arrivée derrière avec un projet pour l'irrigation, qui n'a pas pu se faire non plus à l'époque, puisque jusqu'en 2000... les éleveurs qui sont situés sur l'emprise du projet, donc quelques éleveurs, hein, puisque donc vous avez une zone humide, vous avez des prairies humides également, donc c'est des éleveurs qui ont leurs vaches à l'herbe ici, qui sont des vaches à viande. Et l'avantage d'avoir justement une zone humide, c'est que les prairies sont vertes toute l'année, même s'il fait pourtant assez chaud ici. Hein, Gaillac-Albi, c'est une région qui est connue pour être très sèche pendant l'été, mais avec cette zone humide, les éleveurs avaient très grande satisfaction. Donc ces éleveurs, jusqu'en 2000, ont refusé que la CACG vienne sur leur terrain faire des études géologiques. Et il a fallu que le maire de l'Isle-sur-Tarn, la commune donc où se situe le projet, à une dizaine de kilomètres de Gaillac, il a fallu que le maire use de son influence pour convaincre les éleveurs, en 2000, certains éleveurs, d'ouvrir leurs champs. Alors avec apparemment un prétexte d'eau potable, hein, un futur besoin d'eau potable, qui a fini par convaincre des éleveurs, surtout des héritiers en fait, qu'effectivement ce lac pouvait être justifié. Et c'est à partir de ce moment-là que le projet a vraiment été relancé, puisqu'il a fait l'objet donc, d'une étude commandée par le Conseil général de Tarn-et-Garonne sur les déficits en eau sur le bassin du Tescou. Puisqu'il faut comprendre que le projet de barrage se situe dans le Tarn, à l'amont de la rivière, mais cette rivière, le Tescou, part du Tarn pour se jeter à Montauban dans la rivière Tarn, justement, qui, elle, se jette après dans la Garonne. Donc le Tescou, c'est à peu près c'est un ruisseau, hein, vraiment, pendant l'été. Il est un peu plus gros pendant l'hiver, mais c'est un ruisseau sur 45 km à peu près, et donc qui est sur principalement deux départements, un tout petit bout de Haute-Garonne, mais surtout le Tarn-et-Garonne et le Tarn. Et c'est vraiment le Tarn-et-Garonne qui, lui, est un département très irrigué, beaucoup plus que le Tarn, qui est une zone d'élevage, quand même, traditionnellement. et sur ce bassin en tout cas. Et le Tarn-et-Garonne, lui, est un département d'irrigation, et notamment du côté de Montauban, avec des grandes cultures déjà du maïs et tout ça. Et donc le Tarn-et-Garonne, lui, était très demandeur de nouvelles ressources en eau pour l'irrigation de ses agriculteurs, a commandé à la CCG une étude pour analyser les besoins en eau sur le territoire, les besoins pour l'agriculture, et quels étaient les déficits, et donc quelles étaient les solutions. Donc il y a tout un rapport qui fait 140 pages, réalisé par la CCG en tant que bureau d'études, et qui conclut, à la réalisation du barrage de Sivens, puisque c'était déjà ce qu'ils voulaient faire avant de faire l'étude. Et donc, ce qui était intéressant à noter, c'est que la CCG avait analysé quels étaient les besoins pour l'irrigation. Aujourd'hui, c'est 70% de l'eau du barrage irait à l'irrigation, et 30% de l'eau du barrage irait à ce que les officiels appellent le soutien d'étiage. Donc le soutien d'étiage, c'est remettre de l'eau dans la rivière, avoir un meilleur débit de la rivière pendant l'été. Alors aujourd'hui, c'est présenté comme étant pour soutenir la vie aquatique, les poissons. Mais à l'origine, c'est ce qu'on a découvert dans le rapport de 2001, qui nous a été caché pendant longtemps, c'est que la CCG n'avait pas du tout réfléchi, observé ce qui était nécessaire pour les poissons, mais elle avait simplement regardé quelles étaient les pollutions à diluer. Puisque donc il y a des stations d'épuration sur le parcours qui sont gérées y compris par des compagnies privées, Veolia et d'autres. Et puis la seule usine qui rejetait dans le Tescou, c'est la laiterie Sodial à Montauban, qui avait de tels rejets dans le Tescou en 2000 que les deux derniers kilomètres du Tescou avant qu'il se jette dans le Tarn étaient complètement morts du point de vue de la vie aquatique, puisqu'il y avait trop de rejets dans le ruisseau.
Et ça pouvait être un problème pour l'irrigation ?
Je pense qu'en tant que tel, ça n'était pas un problème pour les administratifs, pour les conseils généraux, puisqu'on ne les a pas trop vus se soucier quand même de la qualité écologique des rivières à l'époque. Mais c'était surtout nécessaire
pour faire joli.
Disons que, en tout cas, moi, je le constate aujourd'hui dans le dossier qui a été soumis à enquête publique et puis qui est l'habillage, l'affichage de ce barrage de Sivens officiellement. C'est que y a ces fameux 30% de soutien d'étiage destinés donc à la vie aquatique sont nécessaires pour que le projet soit d'intérêt général et qu'il puisse justifier de financement public. Et donc il faut trouver un habillage écologique pour permettre effectivement de bénéficier à la fois du statut d'intérêt général et d'utilité publique qui est censé être aussi la condition pour détruire une zone humide des espèces protégées et en même temps pour bénéficier de fonds publics. Et donc c'est cet habillage vert que nous on a interrogé en analysant les dossiers et on s'est aperçu qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui qui a analysé quel était le niveau d'eau nécessaire pour la vie aquatique. La seule étude qui existe, c'est celle de la CCG de 2001 qui analyse les pollutions qui arrivent dans le Tescou et qu'eux proposent de diluer à l'époque avec des barrages.
Non pas de faire disparaître, mais de diluer, simplement.
Oui, alors c'est le fait que quand ces pollutions, pendant l'hiver, ça ne leur pose pas de problème, il y a assez d'eau dans la rivière, donc ces pollutions arrivent ensuite dans le Tarn, etc. Ce sont des taux de concentration que les officiels considèrent comme acceptables, même si c'est de la pollution de toute façon, et donc ça ne leur pose pas de problème. Par contre, pendant l'été, le ruisseau étant plus bas, la concentration de la pollution est forte, et donc eux considéraient à l'époque qu'il fallait absolument la diluer. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'était qu'ils parlaient de pollution, mais qui était des pollutions hors normes. C'est-à-dire que la laiterie Sodial ne respectait pas les normes à l'époque. Donc, vous avez la CCG en tant que bureau d'études qui dit dans son rapport, quelque part, on va construire un barrage dans 5 ou 10 ans pour diluer des pollutions hors normes qu'on constate aujourd'hui. Alors, sachant qu'une pollution hors normes, ce qui faisait l'objet de PV de l'administration à l'époque, évidemment, on n'allait pas se poursuivre pendant des décennies, puisque l'administration faisait des PV, et donc on savait forcément que l'usine allait devoir régler ses problèmes. Ce qu'elle a fait d'ailleurs depuis 2006, et donc que cette pollution qui était considérée comme justifiant...
Le soutien d'étiage.
Oui, le soutien d'étiage. Un tiers du déficit en 2001 du bassin vient de cette pollution uniquement. Et donc, à partir du moment où cette pollution n'a plus lieu d'être, enfin n'existe plus, la logique, c'est même la CCG d'ailleurs qui le dit dans son rapport en 2001, voudrait qu'on baisse le niveau de débit de la rivière pendant l'été. On n'a plus besoin de diluer autant les pollutions, donc du coup on peut se permettre d'avoir moins d'eau dans la rivière, et donc du coup ça diminue d'un tiers le déficit, et donc ça diminue d'autant le recours à un barrage en amont. Donc a remis son rapport en 2001 avec ses différentes propositions au niveau des barrages à réaliser sur la rivière, donc, dont le principal barrage est le barrage de Sivens à l'amont, et que le gros problème c'est que les élus qui ont eu entre les mains en 2003 ce rapport ont décidé effectivement de reprendre à la fois les scénarios les moins économes du point de vue de l'irrigation. On peut comprendre, en phase 2, ils n'avaient que des irrigants. Hein. Il n'y avait pas d'association de protection de l'environnement, il n'y avait pas d'association de pêche. Donc la négociation sur ce qu'on appelle le plan de gestion des étiages s'est déroulée entre irrigants et pouvoirs publics. Et donc ils n'ont pas osé ou pas voulu, en tout cas, demander des efforts aux irrigants. Donc ils reprennent les scénarios qui sont les plus consommateurs d'eau, on va dire. Et puis ils reprennent effectivement l'idée de diluer les pollutions et donc de remettre beaucoup d'eau dans la rivière. Alors c'est ce qui déclenche un programme pour construire deux barrages. Un premier barrage côté Tarn-et-Garonne qui s'appelle le Thérondel, qui fait à peu près deux fois moins que Sivin, 800 000 m3, qui lui a été réalisé en 2010. C'est un barrage classique, 2 millions d'euros, enfin, c'est tout à fait classique pour les barrages. Et donc celui-ci n'a pas fait l'objet d'opposition. Le deuxième barrage qui était prévu dans ce programme, le plan de gestion des étiages, c'est le barrage de Sivins. Et donc celui-ci, c'est une autre affaire. Il est situé au pied de la forêt de Sivins, une zone humide importante, 94 espèces protégées identifiées dans l'étude d'impact.
Et donc, la zone humide la plus importante du Tarn-et-Garonne, je crois.
C'est la dernière grande zone humide du bassin du Tescou, ça c'est sûr. C'est considéré comme étant une zone humide majeure du point de vue de la biodiversité dans le département. Donc c'est l'une des grandes zones humides du département qui a été détruite là, par les travaux. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il y avait vraiment la nécessité de la préserver. Il est encore possible de la préserver aujourd'hui. Les zones humides sont protégées par la loi depuis très longtemps. Il y a la convention Ramsar au niveau international depuis 40 ans, je crois, qui protège les zones humides. Et d'ailleurs, il a fallu que la CACG et le Conseil général démontrent qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement pour qu'il soit autorisé par la préfecture à détruire cette zone humide. Alors, le problème, c'est que leur démonstration n'est pas crédible, et nous, on l'a contesté fortement, les scientifiques l'ont également contesté, mais ils n'ont pas été écoutés par la préfecture. Donc, pour reprendre un petit peu l'historique, donc en 2003, ce programme est lancé. En 2007, le Conseil général du Tarn décide de lancer un appel d'offres, une sorte d'appel d'offres pour faire ce barrage. Et le hasard fait que la CACG, qui était bureau d'études en 2001, est le seul prestataire à candidater pour ce barrage et obtient le marché en 2008. Donc on se retrouve avec ce conflit d'intérêts évident d'un bureau d'études qui fait des recommandations et qui bénéficie du marché de ces recommandations quelques années plus tard. Donc c'est assez classique pour la CACG, hein, elle a fait ça un peu partout. C'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi la préfecture et le Conseil général ont caché ce rapport de 2001 lors de l'enquête publique, ont refusé de le communiquer au collectif testé.
Mais comment est-ce possible, ça, Ben Lefeuté ? C'est complètement illégal.
C'est illégal. C'est-à-dire qu'en gros, eux ont toujours dit c'est pas nous qui avons produit ce rapport, et donc on ne peut pas vous le communiquer, il est la propriété de la CACG. Alors, du point de vue, effectivement, légal, une administration à qui on demande un rapport, si ce n'est pas cette administration qui a commandé le rapport et qui détient le rapport, elle est obligée d'orienter vers l'administration qui le détient. Hein, ça, c'est la règle du jeu. Donc, normalement, le Conseil général du Tarn, qui pouvait effectivement dire « c'est pas moi, mais c'est le Tarn-et-Garonne qui l'a commandé, donc je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le transmettre », devait nous orienter vers le Conseil général du Tarn-et-Garonne. Eux, au contraire, ont fait croire que c'était la CSG qui l'avait fait, donc que c'était privé et que donc on n'y avait pas accès. Moi, quand je suis arrivé, quand je me suis impliqué, j'avais d'autres méthodes, enfin, je connaissais un petit peu ces ficelles, et donc on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs au niveau national, et c'est comme ça qu'on a fini par avoir le rapport. Et dès que j'ai vu le sommaire du rapport, j'ai compris pourquoi on nous l'avait caché, parce qu'il montrait comment la CSG avait effectivement calculé les déficits et manipulé les chiffres. Parce que ce qui m'a surpris aussi, quelque chose d'important dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, les officiels nous disent « Ah, mais on n'a pas le choix de faire ce barrage parce que la réglementation nous oblige à avoir un certain débit dans la rivière. » Donc, je ne vais pas passer les détails, mais c'est 150 litres secondes à Saint-Nopharie, dans le Tarn-et-Garonne. Donc là, il y a une unité de mesure dans la rivière, contrôlée par l'administration. Et ils nous disent, la loi nous dit qu'on doit avoir 150 litres par seconde qui passent à cet endroit-là pendant l'été. Et aujourd'hui, la rivière est beaucoup plus basse, et donc on ne respecte pas la réglementation, donc on n'a pas le choix que de faire le barrage. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était l'administration d'État qui avait fixé cette norme, en me disant, voilà, c'est l'intérêt général, les bureaux de l'ONEMA regardent quel est le niveau de la rivière qui est nécessaire pour les poissons. Et non, quand on regarde le rapport de la CACG en 2001, on s'aperçoit que le débit à respecter est fixé par le constructeur de barrage. Donc c'est-à-dire que c'est la CACG qui, en justifiant de diluer des pollutions, donc quelques années plus tard, donc a défini qu'il fallait 150 litres secondes à Saint-Euphary, ce qui a été repris par les élus en 2003 et qui est devenu maintenant effectivement la réglementation dans le SDAJ au niveau de Haute-Garonne.
Le SDAJ, pardon, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Oui, pardon, oui. Donc, ce qui est devenu la norme aujourd'hui a été en fait complètement conçu par le constructeur du barrage qui s'appuie sur cette norme aujourd'hui pour justifier le fait qu'il y a un barrage. Alors, en plus, ils mentent, hein, puisque quand on... Il faut toujours aller vérifier à la source. Et donc, je suis allé vérifier, moi, cette norme dans le SDAJ. Et le SDAJ dit qu'aujourd'hui, il y a obligation d'avoir un débit de 100 litres secondes dans l'attente du barrage de Sivens à 150 litres secondes. Et donc, on peut être dans l'attente pendant un siècle. Personne ne sera condamné à ne pas respecter la réglementation. Le Conseil général ne sera jamais condamné. Alors, c'est pareil. Le plan de gestion des étiages, par exemple, c'est un document de planification qui n'a aucune valeur réglementaire. Alors, eux font croire à la population qu'ils n'ont pas le choix parce que c'était prévu dans le plan de gestion des étiages, alors qu'en fait, ils peuvent le mettre à la poubelle, ça ne posera aucun problème à personne du point de vue du droit. Voilà, il y a beaucoup de manipulations par rapport à ça. Et donc, c'est grâce à ce rapport de 2001 qu'on a compris surtout la manipulation qui a eu lieu après en 2009, puisque quand on reprend l'historique, donc en 2008, la CACG obtient le marché pour faire le barrage de Sivens, il signe le contrat avec le Conseil général, et celui-ci leur demande d'actualiser les données. Alors, je pense qu'ils n'étaient pas trop à l'aise par rapport au financement public de construire un barrage en 2011-2012, on va dire, tel qu'il était planifié, sur la base de données datant de 2000. Et donc, en 2009, la CCG rend un petit rapport d'actualisation de 12 pages, complètement bâclé. Alors, ça s'appelle actualisation du déficit en eau, mais en fait, il n'y a aucune actualisation puisque ils disent très rapidement, rien n'a changé depuis 2001, depuis notre rapport de 2001. Les surfaces irriguées restent les mêmes. Alors, sur la pollution, ils sont plus embêtés parce que, évidemment, en 2009, ils savaient très bien que la principale pollution de la laiterie avait disparu. Sans doute que les stations d'épuration qui étaient analysées à l'époque en dysfonctionnement avaient également traité leurs rejets. Donc on va dire que la CACG en 2009, je pense, a constaté que les pollutions qu'elle avait utilisées en 2001 pour justifier le barrage n'étaient plus là. Et donc plutôt que de rentrer dans le détail et de l'avouer honnêtement, elle a préféré s'en tenir à une seule phrase dans son rapport 2009 qui était « Les besoins de salubrité analysés en 2001 sont maintenus en 2009 ». Et donc il faut toujours 150 litres secondes à Saint-Euphary, même si c'est en pleine contradiction avec ce qu'elle avait dit en 2001, du fait que si la pollution disparaissait, on pouvait baisser les niveaux de débit.
Et les surfaces irriguées, elles n'avaient vraiment pas bougé, même le feuté.
Alors, les surfaces irriguées, selon la CCG en 2009, elles n'ont pas bougé. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'elles bougent tous les ans habituellement, mais là, comme par hasard, elles n'avaient pas bougé. Alors, nous, on compare avec ce que dit la CCG dans un autre rapport sur le bassin de Haute-Garonne, où elle dit de 2000 à 2010, les surfaces irriguées ont baissé de 23% sur le bassin. Alors on se dit, bah peut-être que c'est ça, c'est à l'échelle de Haute-Garonne, mais peut-être que sur notre bassin à nous, tout plus petit, ça n'a pas bougé. Et puis, on s'aperçoit que dans l'enquête publique sur le barrage de Sivens, la CACG dit les surfaces irriguées sur le bassin du Tescou, donc concernées par le barrage, ont baissé de 37% entre 2000 et 2010. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on a tout de suite fait un contre-rapport où on a dit, attendez, la CACG a menti en 2009 puisqu'elle n'a pas actualisé les données. Aujourd'hui, les surfaces irriguées, on le voit par les demandes d'autorisation de pompage à la préfecture, ont fortement diminué. Entre ce qu'il y avait, on va dire, pour faire simple, entre les surfaces irriguées de 2000, telles qu'elles étaient dans le rapport initial, et puis ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui, c'est à peu près divisé par deux. Et donc les pollutions qui justifiaient aussi le soutien des tirages à l'époque ont globalement disparu. Et donc c'est pour ça que nous, on a dit, mais attendez... Le déficit qui était analysé par la CACG en 2000, nous aujourd'hui, on estime qu'il est beaucoup moins important. En gros, en étant à peu près large, on estime que le déficit global, il est plutôt de 300-400 000 m3. Et eux sont en train de faire un barrage d'1,5 million. Hein. Donc vous voyez, on est à 3-4 fois moins de besoin d'eau que ce qui est prévu dans le barrage. Alors depuis qu'on a fait ces contre-rapports en septembre 2013... Une trentaine de pages argumentées. On a envoyé tous ces contre-rapports aux deux ministres concernés, Stéphane Le Foll pour l'agriculture, à l'époque Philippe Martin pour l'écologie, et puis copie aux préfets concernés, conseils généraux, la région, etc. Bon. Alors, suite à ça, on n'a plus de nouvelles pendant des mois. Plus personne ne nous a répondu. Plus personne n'a voulu discuter avec nous parce qu'il n'y avait rien à dire par rapport à nos arguments. Puisque nous, dans nos contre-rapports, on a dit « la CACG n'a pas actualisé les données, elle a exagéré les déficits, on ne peut pas faire confiance à la CACG pour faire des études puisqu'elle est jugée partie, on vous demande un moratoire du projet et des études indépendantes. Et donc nous, on demandait qu'il y ait vraiment des gens qui viennent réévaluer quel est le déficit en eau en 2013, quelles sont les surfaces irriguées, quels sont les besoins de la rivière du point de vue aquatique. Est-ce que le barrage est vraiment la solution par rapport à ces problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives aujourd'hui? On pourrait y revenir, mais nous, ce qu'on propose, c'est notamment sur tout ce qui est filière courte, etc.
On va revenir sur les alternatives, mais avant ça, Ben Lefeuté, j'aimerais quand même une précision. En vous écoutant, on a bien compris que ce barrage, non seulement la CACG a obtenu le marché, mais elle a obtenu également la déclaration d'utilité publique. Donc, à qui est-ce qu'il va profiter, ce barrage? Dans quoi est-ce que c'est véritablement d'utilité publique? Et est-ce que, on n'a pas encore abordé la question du coût, mais est-ce que le rapport coût-bénéfice justifie ou justifierait peut-être la construction de ce barrage et expliquerait le silence pour le moins curieux des politiques?
Certes, donc la préfecture a autorisé les travaux, a sorti un arrêté d'intérêt général et d'utilité publique, donc il y a deux arrêtés signés en octobre 2013, et puis une dérogation à la loi sur les espèces protégées qui permet effectivement de détruire l'habitat, la zone humide, etc. Donc ça, la préfecture a autorisé tout ça, à notre grande surprise, on va dire, parce qu'on avait quand même toujours l'espoir qu'elle abandonne le projet dans sa version initiale, puisque entre l'enquête publique de fin 2012 et puis l'autorisation un an plus tard par la préfecture, il y a eu une succession d'avis défavorables des scientifiques, des experts au niveau national. Les services de l'État chargés de l'eau, l'ONEMA, eux également ont donné des avis défavorables au projet. Et donc, on se disait qu'après tous ces avis défavorables, la préfecture n'oserait pas signer les arrêtés d'autorisation. Le plus symbolique, peut-être, c'est la commission d'enquête publique, puisque le commissaire enquêteur, encore une fois, je rappelle qu'il ne disposait pas des avis défavorables de l'ONEMA qui était déjà réalisé. Il ne disposait pas, lui, du rapport 2001 qui aurait permis justement de voir un petit peu la manipulation des données, etc. Et donc, malgré ça, malgré ce biais déjà dans l'enquête publique, la commission d'enquête a considéré qu'elle donnait un avis favorable au projet sous réserve que les experts au niveau national chargés de statuer sur la destruction de la zone humide donnent eux-mêmes un avis favorable. Et donc c'était une sorte d'équilibre de dire, ok, si les experts des espèces protégées, des zones humides, considèrent qu'on peut sacrifier ce patrimoine-là parce qu'il y a assez de compensations environnementales qui sont garanties, etc., dans ces cas-là, c'est normal que la préfecture autorise le projet. Mais donc ces experts, eux, n'ont pas donné d'avis défavorable. Et donc, du coup, la préfète s'est assise sur l'avis du public. Hein. C'est-à-dire que... Alors, il y a eu une grosse mobilisation lors de l'enquête publique. Hein. Il y a beaucoup d'associations, des particuliers qui ont donné des avis défavorables. Il y avait 400 personnes lors de la réunion publique. Il y a quand même une grosse mobilisation locale autour de cette enquête publique. Et donc, le minimum, quand même, quand on consulte le public, c'est tenir compte de l'avis de l'enquête publique, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette succession d'avis défavorables qui fait qu'on parle de passage en force de la préfecture en octobre 2013, puisque si elle avait été démocrate, si elle avait été cohérente avec les avis, elle n'aurait jamais autorisé le projet de barrage de Sivens.
Oui, mais à nouveau, je vous pose la question, Ben Lefeuté. Quel bénéfice et pour qui? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce passage en force? Pourquoi est-ce que c'était si important? J'imagine qu'il doit y avoir des retombées formidables pour l'ensemble de la population.
J'ai dit tout à l'heure que pour bénéficier d'intérêt général, il fallait qu'il y ait un minimum d'affichage écologique, on va dire, pour justifier effectivement que la préfecture sorte un arrêté comme celui-ci et qu'il y ait des subventions publiques. Pour qu'il y ait un intérêt général, il faut aussi que du côté agricole, il y ait quand même suffisamment de bénéficiaires du projet pour l'irrigation. Et c'est là où il y a une deuxième polémique, au-delà des pollutions à diluer, c'est sur le nombre de bénéficiaires du côté agricole. Puisque donc, dans l'enquête publique, il est annoncé une liste de 82 bénéficiaires agricoles potentiels. Les 80 qui sont annoncés dans l'enquête publique, c'est pour faire en sorte que, justement, on puisse dire, regardez, il y a beaucoup d'agriculteurs concernés, donc c'est d'intérêt général. En fait, cette liste, elle a été tout simplement faite à partir du cadastre. Tous les propriétaires, les exploitants agricoles qui bordent le Tescou sont dans la liste, hein, qu'ils soient irrigants ou pas irrigants, qu'ils soient en faveur du barrage ou opposés au barrage, ils sont dans la liste des bénéficiaires potentiels. Et donc c'est comme ça qu'il y a une manipulation aussi de la demande agricole. Alors le Conseil général refuse de répondre à ces questions. Hein. Combien d'irrigants sont aujourd'hui prêts à acheter l'eau du barrage? Il n'y a aucune réponse qui est apportée. Les experts du ministère qui sont venus enquêter dans le Tarn Sachant que nous, on dit une vingtaine, la Chambre d'agriculture dit 80, donc ils ont dit, bon, bah, faites-nous la démonstration. Et donc c'est comme ça que la Chambre d'agriculture s'est retrouvée à avouer dans la presse locale qu'elle était en train de prospecter sur le bassin les agriculteurs qui pourraient être intéressés par l'eau du barrage. Alors elle a dit, on espère en trouver au moins une cinquantaine, donc déjà sur 80, ils sont redescendus à 50 comme objectif à atteindre. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que le président de la Chambre d'agriculture annonce qu'il va voir des producteurs de blé qui, aujourd'hui, n'irriguent pas et les incite à faire du blé irrigué pendant le printemps en disant, grâce au barrage, vous pourriez faire du blé également pendant cette saison.
C'est peut-être dans l'espoir que ces agriculteurs contribueront à rembourser ce barrage qui coûte assez cher, je crois.
Oui, alors l'investissement est annoncé maintenant à 8,4 millions d'euros. On sait comment ça se passe, ce genre de travaux. On va sans doute, s'il va jusqu'au bout, arriver plutôt à près de 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est, dans le jargon technique, on est dans les 6 euros le mètre cube à l'investissement, alors que la plupart des barrages se font à 2 euros le mètre cube. Donc on est déjà à 3-4 fois plus élevé selon les barrages ici à Sivens. Alors pourquoi ? Parce que le site n'est pas adapté pour faire un barrage. Et il y a une très grande zone humide et donc l'eau de fait s'infiltre en sous-sol. Et donc si vous mettez une simple digue qui suffit souvent à faire un barrage, l'eau va passer sous la digue. Et donc la CSG est obligée avec ses prestataires de creuser à 8 mètres de profondeur sur 300 mètres de long pour atteindre la roche, faire ce qu'ils appellent une clé d'étanchéité, c'est-à-dire vraiment faire une digue en sous-sol étanche pour empêcher l'eau de passer sous la digue. Donc tout ça rajoute un coût très très élevé au projet. C'est ce qu'ont dit les experts il y a quelques années au niveau du ministère. Après, le fait qu'il y ait une zone humide sur ce site, il dépense à peu près 1 million d'euros d'investissement pour la zone humide. Alors c'est les études d'impact, c'est la compensation environnementale de racheter 19,5 hectares autour sur 9 surfaces différentes d'anciennes zones humides dégradées, de les réaménager pour en refaire des nouvelles zones humides, soi-disant artificielles, etc. Et donc tout ça, c'est évalué à 1 million d'euros. Donc tout ça rajoute effectivement beaucoup d'argent pour l'investissement. Alors ce n'est pas intéressant pour la collectivité, puisque cet investissement est 100% fonds publics. On a 20% qui sont pris en charge par les deux conseils généraux, Tarn et Tarn-et-Garonne. Vous avez 50% par l'agence de l'eau à Douai-Garonne et vous avez 30% par les fonds européens FEADER. Donc ce n'est que de l'argent public qui sert à financer le barrage à l'origine. Et plus ça coûte cher pour le contribuable, plus ça rapporte d'argent à la CSG puisqu'elle, elle est payée en pourcentage. Alors après, l'investissement, ça n'est que quelque part la petite partie en fait, du coût, puisque le fonctionnement coûterait encore plus cher que l'investissement sur 20 ans.
Mais à qui ?
Alors pour l'instant, c'est le Conseil Général qui va être le propriétaire hein, donc du barrage et donc sans doute le gestionnaire. En tout cas, la CSG va peut-être le gérer à terme, mais c'est le Conseil Général qui en est responsable. Et vous avez 140 000 euros à peu près de coûts de fonctionnement pour la gestion de l'ouvrage, la dotation de maintenance, tout ce qui est réparation à terme, etc.
Mais la vingtaine d'agriculteurs potentiellement intéressés sont d'accord pour payer cet entretien ?
Alors justement, je vais y venir. Le total, c'est 140 000 euros uniquement pour le barrage et 200 000 euros qui sont annoncés pour le suivi écologique de la compensation environnementale. Alors là, donc, ce sont les à peu près 20 hectares de zones humides qui seraient recréées artificiellement autour, qui auraient besoin d'être entretenus tous les ans avec des commissions qui suivent, qui vérifient si les espèces protégées se réinstallent ou pas, etc. Et tout ça pendant 20 ans, ça paye pas mal de spécialistes, de bureaux d'études et tout ça. Et donc tout ça coûterait assez cher aux contribuables, puisque donc on serait au minimum à 340 000 euros par an de coûts pour le Conseil Général. Alors face à ça, que payent les irrigants ? Donc voilà, globalement, sans rentrer dans le détail, 5% du coût de fonctionnement serait payé par les irrigants. 95%, ben, c'est la question. Par qui ? A priori, ce serait par le contribuable, puisqu'on ne voit pas qui d'autre paierait. Et donc le contribuable, ça peut être celui du Conseil Général, de l'Agence de l'eau, de l'Europe. En tout cas, ça veut dire que 95% du fonctionnement serait payé, et on ne parle pas de milliers d'euros, on parle de centaines de milliers d'euros, serait payé pendant 20 ans au moins par les contribuables. Et c'est sans doute ce qui va poser des problèmes pour la France, puisque la Commission européenne enquête sur ce projet au regard du respect de la directive européenne sur l'eau. Et il y a tout l'aspect qualité de la rivière, état des masses d'eau, etc. Mais il y a aussi l'aspect ouvrage et ce qu'ils appellent le principe de recouvrement des coûts. Et c'est très important en Europe que les usagers payent effectivement le coût de fonctionnement. Et là-dessus, le projet pêche, si on peut dire, beaucoup, puisque donc les irrigants prendraient 70% de l'eau du barrage, mais ne paieraient que 5% du coût de fonctionnement. Donc vous voyez l'écart. Alors récemment, dans les publicités que le Conseil général a achetées dans la presse locale, il commence à évoluer sur son message en disant les usagers vont payer ce qu'ils consomment, etc. Alors moi, j'aimerais bien que on aille voir les irrigants, de leur dire vous n'avez pas payé 50 euros l'hectare, mais 500 euros l'hectare ou 600 euros l'hectare. Et là, on va voir s'il y a beaucoup de candidats pour acheter de l'eau au Conseil général. Et je crois que là, la Chambre d'agriculture qui est en train de courir pour inciter des gens à irriguer, à consommer de l'eau du barrage, va avoir encore plus de difficultés à trouver des clients potentiels pour le Conseil général. Donc ça fait partie des choses, si vous voulez, des questions polémiques que nous, on a soulevées il y a déjà un an dans nos rapports, sur lesquels il y a un refus total du Conseil général de répondre, ce qui a fini par déclencher cette grève de la faim. Cette grève de la faim a fini par déclencher...
Alors attendez, parce que vous allez trop vite, Ben Le Feuté. Mais j'aimerais qu'on revienne tout de même sur ces événements. Là, vous êtes en train d'évoquer les grévistes de la faim, des événements qui ont eu lieu à la fin de l'été, fin août, début septembre, et qui ont pris une tournure tout à fait inattendue.
Oui, parce qu'en fait, du point de vue de la lutte, il y a eu un tournant au moment où il y a eu le passage en force de la préfecture. Donc, je le disais, plein d'avis défavorables. En principe, la préfecture n'aurait pas dû autoriser le projet, et elle a quand même autorisé le projet.
En tout cas, Ben Le Feuté, la protection s'est organisée au niveau de la population, puisque des gens sont allés s'installer dans cette zone humide, dans la forêt, pour empêcher qu'on y touche.
Alors voilà, donc la préfète a signé les arrêtés, début octobre, le dernier le 16 octobre, et fin octobre, des gens sont venus occuper le site pour empêcher les travaux.
Là, on est en 2013. Hein.
Oui, donc on est en 2013. Donc nous, les associations, on a fait des recours devant les tribunaux. On a attaqué les trois arrêtés préfectoraux, on les a attaqués devant le tribunal de Toulouse, un tribunal administratif, mais avec la difficulté que ces recours ne seraient jugés que 2 ou 3 ans plus tard. Donc ce qui s'est déjà passé plusieurs fois, et c'est pour ça que des gens connaissant cela ont décidé d'occuper le site du chantier, c'est qu'on a plusieurs exemples ici dans le sud-ouest de barrages qui ont été contestés par les associations. Elles ont gagné au tribunal, mais beaucoup trop tard. Elles ont gagné au bout de 3 ans. Le tribunal, par exemple, dans le cas d'un barrage pas très loin d'ici, qui est également réalisé par la CSG et le Conseil général du Tarn, hein, donc c'est important, c'est quand même un peu une copie. Ce barrage a perdu son statut d'intérêt général et d'utilité publique, mais après avoir été construit. Ça fait 17 ans maintenant que ce barrage existe. Le Conseil général dit que l'année prochaine, ils vont faire une enquête publique pour lui redonner le statut d'intérêt général au bout de 18 ans. Et le président lui-même du Conseil général, Thierry Carcenac, dit souvent, je l'ai entendu moi en réunion publique, dire « ce barrage n'existe pas ». Alors c'est un barrage qui est illégal du fait que l'arrêté a été annulé par la justice, mais après construction. Donc c'est pour éviter en fait ce genre de victoire à la Pyrrhus, parce que vous avez des associations qui gagnent au tribunal, mais trop tard, donc en fait... Les dégâts sont déjà faits. Le barrage n'est pas détruit parce qu'il est financé par les fonds publics, donc on ne détruit pas un ouvrage dans ces cas-là. Et en plus, elles perdent même beaucoup d'argent parce que, en général, l'État est condamné à verser 1 200 euros, alors que les frais de justice se montent à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, pour éviter d'avoir un nouveau scénario comme celui-ci, un scénario perdant pour les associations écologistes, d'autres citoyens du Tarn, de Toulouse et d'ailleurs ont décidé d'occuper le site en commençant par squatter une ancienne ferme, propriété du Conseil général, qui s'appelle la Métairie Neuve. Et donc l'occupation a commencé fin octobre 2013 de cette ancienne ferme. Très rapidement, une dizaine de personnes ont commencé à y vivre et puis ont passé l'hiver comme ça dans cette maison. Alors en octobre, fin octobre et surtout en novembre, le constructeur de barrage, la CSG, a voulu commencer le chantier en déplaçant les animaux. Alors ça, c'est les premières mesures avant de déboiser. Le protocole fait que les reptiles, les amphibiens, les grenouilles, etc., une sorte d'anguille à l'emploi de plein air, devaient être déplacés. Déménager hors du site. L'idée, c'est de dire, on va limiter le maximum d'animaux qui seraient écrasés par les machines lors du déboisement, et donc on les déplace, ils viennent les prélever, les mettre dans des seaux, et ils vont à l'aval, à l'amont, et ils les rebalancent dans des sites. Alors les scientifiques disent que c'est du grand n'importe quoi, dans le sens où, par exemple, ils vont remettre des serpents à l'aval du projet à des endroits où il y a déjà où l'habitat est favorable aux serpents, mais ça crée une surpopulation qui est dommageable à l'écosystème, etc. Donc bref, tout ça a été dénoncé par les opposants. Et du coup, très concrètement, quand le premier jour, deux techniciens de capture sont arrivés sur le site pour commencer à prélever des lamproies de plein air dans la rivière, une dizaine d'opposants, très tôt le matin, se sont mis autour d'eux en leur disant « Nous sommes opposés au barrage et nous allons vous empêcher pacifiquement de travailler. » Donc au début, ça a été très calme. Les gendarmes du coin sont venus, ont tenté de manière très calme de repousser les opposants qui étaient devenus à ce moment-là une vingtaine, une trentaine. Nous sommes également venus, le collectif Testé, rejoindre ces opposants, ces occupants, avec les journalistes également. Et on est arrivé un petit peu avant que les gros bras de la gendarmerie débarquent. Et ce qui fait qu'en présence des journalistes, les gros bras n'ont pas osé intervenir, la préfecture n'a pas donné de consigne. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas eu de violence vraiment à cette période, en novembre, à part fin novembre, où ils ont vraiment réussi, cette fois-ci, à capturer cette anguille, là, en proie de plein air, avec une quarantaine de gros bras qui ont réussi à maîtriser les opposants, et puis qui ont permis aux techniciens de capture de faire leur travail avant fin novembre.
Ça, c'était 2013. Et puis 2014, on ne va peut-être pas refaire toute l'année, mais j'aimerais qu'on parle de la rentrée... la fin de l'été 2014.
Alors oui, enfin quelque chose qui est peut-être important quand même à souligner, c'est que en décembre 2013, janvier 2014, il n'y avait pas de déboisement qui était possible du fait de la libération des animaux. Les occupants continuaient à occuper cette ferme et il y a eu un événement qui est important parce que c'est le premier acte de violence vraiment fort dans cette bataille. Il est venu des probarrages, c'est-à-dire que fin janvier. Alors qu'il n'y avait plus que deux jeunes filles qui étaient là l'après-midi dans cette ferme, une vingtaine de gens, pour certains cagoulés, sont arrivés avec des 4x4, les plaques de voitures cachées. Ils ont réussi à détourner l'attention des deux filles avec une tronçonneuse un peu plus loin et ont commencé à détruire toute cette ancienne ferme à coups de masse pour détruire les fenêtres, les portes, le système solaire, enfin bref, rendre cette maison occupée inoccupable. Et ça, c'est vraiment le premier acte fort de violence dans cette lutte. Aujourd'hui, les pouvoirs publics disent que les opposants sont des gens violents. C'est quand même symbolique que la première violence des gens cagoulés venant frapper, détruire la maison de Cossa Générale, enfin cette ancienne ferme, soit bien des probarrages. Hein. Et donc il y a eu une plainte qui a été déposée, mais l'enquête n'a pas l'air de progresser très très vite. Et donc suite à ça, les occupants ont quitté la maison parce que les probarrages avaient mis des produits répulsifs qu'ils avaient jetés sur les matelas. La maison était vraiment devenue invivable. Et donc, ils ont fait le premier camp d'occupation qui s'est déplacé au niveau de la digue. Et donc là, ce camp a tenu tout le mois de février avec beaucoup d'activités, y compris des spectacles, du cinéma, etc., sur ces thématiques de lutte sociale. Et donc, tout le mois de février, il y a eu un renforcement aussi de la dynamique. Et puis, fin février, la préfecture a évacué, a expulsé ce premier campement, avec pas mal de violence, là, quand même, de certains membres des forces de l'ordre. Tout ça a été filmé, a été montré sur Internet. Ça a créé de l'indignation. D'autres opposants sont venus, ont rejoint de Notre-Dame-des-Landes, etc. Et ce qui fait que, alors que fin février, il n'y avait qu'une quinzaine d'occupants la nuit, on va dire, deux semaines après, il y en avait 80 à 100. Qui étaient là la nuit, ces trois campements, y compris l'ancienne ferme qui avait été réoccupée. Et puis, c'est ce qui a fait que les pouvoirs publics ont reculé au mois de mars, puisque normalement le déboisement était planifié pour le mois de mars et qu'il ne s'est rien passé. A priori, le contexte a été favorable, c'est-à-dire que vous aviez 80-100 zadistes, hein, comme on les appelle, hein, les zones à défendre, là, les ZAD, 80-100 zadistes qui étaient là en permanence, sur trois campements, sur 2 kilomètres. Donc pour les déloger, il fallait envoyer beaucoup de forces de l'ordre et on était en pleine campagne municipale et a priori, la préfecture, le gouvernement préféraient reculer pour mieux sauter en septembre. Et ce qui fait qu'effectivement, du mois d'avril jusqu'à fin août, il n'était pas possible de déboiser du fait de la nidification des oiseaux. Et donc la CACG, la préfecture, le Conseil général ont organisé un plan de bataille, on peut le dire, pour le 1er septembre. Puisque à partir du 1er septembre, il y avait de l'ordre de 150-200 gardes mobiles qui étaient là, hélicoptères, pour accompagner le déboisement du site. Alors, il y a eu une occupation qui a duré jusqu'au mois de mai. Il y a un des campements qui a été levé volontairement par les zadistes. C'est assez important aussi de souligner, c'est-à-dire qu'ils ont quitté eux-mêmes une parcelle pour redonner l'accès aux éleveurs. Voilà, donc fin août, c'était un rendez-vous. Le 15 août, ils ont commencé à essayer de réoccuper, mais les forces de l'ordre, le Conseil général, avaient commencé à barrer les routes. Il y avait tout un arsenal juridique, hein, avec plein d'arrêtés municipaux, départementaux, préfectoraux, qui empêchaient à la fois le stationnement, le bivouac, la randonnée, etc., sur tout le site de Sivens. Et donc cet arsenal juridique a été utilisé pour nuire effectivement à la réoccupation. Et puis progressivement, ils ont réussi à installer un premier campement dès fin août. C'était l'objet par la suite de barricades et de premiers affrontements avec les forces de l'ordre fin août. Et donc du coup, nous, en parallèle de l'action des occupants, comme action forte, on a décidé de lancer une grève de la faim. Donc moi, j'étais gréviste le 27 août parmi les quatre premiers grévistes. Et notre grève de la faim, c'est important de le rappeler, n'avait pas pour but de demander l'arrêt et l'abandon du projet, mais était vraiment sur la question démocratique, de dire il y a un manque de transparence sur ce projet, on fera la grève de la faim tant qu'on n'aura pas des réponses à nos questions sur à qui ça bénéficie, combien ça va coûter aux contribuables, où sont les études qui justifient de remettre de l'eau pour les poissons, etc. Et puis, ce qu'on demandait depuis un an, un débat public contradictoire avec le Conseil général. Alors, vous voyez, c'était des demandes qui étaient quand même tout à fait raisonnables. C'est-à-dire qu'on déclenche une grève de la faim pour obtenir des réponses écrites et un débat d'une heure. Et même ça, ça n'a pas été possible de l'obtenir du Conseil général à plus de 50 jours de grève de la faim.
Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse du Conseil général, Ben Lefeuté?
Alors, la réponse qu'on a eue par rapport à cette grève de la faim, il a fallu attendre un mois pour qu'on ait une réponse officielle du président, Thierry Carcenac, pour répondre qu'il ferait un débat si le collectif CST condamnait les violences des opposants, et uniquement quand il y aurait les conclusions des experts du ministère. Puisque entre-temps, alors il y a eu beaucoup de choses, c'est un petit peu difficile de tout expliquer, parce que tout ça se fait en parallèle, mais donc le 1er septembre, les travaux commencent. Une mobilisation, je pense qu'il y avait peut-être à ce moment-là 80 sans-abris qui étaient présents sur site, qui vivaient dans des cabanes, dans les arbres, dans des tentes, etc., des yourtes. Nous-mêmes, nous étions mobilisés avec beaucoup de gens du coin dans la journée, mais les machines arrivent, d'abord protégées par des gardes mobiles qui n'hésitent pas donc à balancer des gaz lacrymogènes, flashballs, etc. Donc assez rapidement, la résistance pacifique ne peut pas tenir face à un tel déploiement des forces de l'ordre. Il y a bien des barricades avec effectivement quelques radicaux, on va dire, qui balancent des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, mais qui souvent ne tiennent pas très longtemps face aux tirs de flashball. Et donc, on va dire que le Conseil général, la CCG, arrive à commencer à déboiser très rapidement sur le site. Du coup, les opposants tente au maximum de ralentir le chantier, mais n'arrive pas à empêcher le chantier de commencer. Cette première semaine du 1er septembre au 5 septembre a été à la fois une belle histoire de lutte commune et en même temps un moment très triste et très dépressif, puisque les arbres tombaient toutes les minutes. Et donc tous les gens qui, depuis un an, avaient réussi à bloquer le déboisement se sont aperçus qu'il y avait en face d'eux une armée de gendarmes qui vraiment accompagnaient cette destruction massive de la forêt, et que tout le monde se rendait bien compte qu'il serait impossible d'empêcher le déboisement, tellement il y avait de forces de l'ordre déployées, et tellement elles étaient prêtes à aller très très loin, parce qu'on a eu des tirs de flashball à très courte distance, enfin il y a eu des blessés dès les premiers jours, et il était clair très rapidement qu'on avait en face de nous une très forte volonté de passer en force, et qu'on aurait beaucoup de mal, nous, de manière pacifique, à résister.
Aujourd'hui, il n'y a plus un seul arbre sur la zone humide du testé?
Oui, sur les 40 hectares qui devaient être déboisés, tout a été déboisé, défriché.
Transformé immédiatement en copeaux ou sur?
Oui, une bonne partie du bois qui a été coupé par des sous-traitants de la CSG a été transformé en copeaux. Ça servira dans des chaudières collectives chez Airbus, je crois. Enfin, tout ça a été même très peu valorisé du point de vue du bois de meubles, par exemple. Il voulait aller très, très vite. Et donc, sur les trois premières semaines de septembre, tout a été déboisé, en grande partie défriché. On a réussi quand même, le 8 septembre, on a réussi à empêcher le chantier de se dérouler pendant quasiment une journée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 7 septembre, le dimanche, le week-end, les machines ne viennent pas. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'organiser un grand pique-nique le 7 septembre. On avait 1000 personnes qui nous ont rejointes du coin. Et beaucoup de ces personnes sont restées jusqu'au lundi matin. Et c'est ce lundi matin, entre les zadistes présents et puis peut-être 100-200 personnes du coin qui sont restées avec leur voiture, on a réussi à bloquer les machines sur les routes. Et ce qui fait que jusqu'à 16 heures, aucune machine n'est rentrée ce jour-là. Et c'est important parce que c'est ce jour-là qu'on a obtenu le fait que la ministre de l'écologie décide d'envoyer des experts pour apaiser la situation et voir si ce projet très contesté était effectivement justifié sur le terrain ou pas.
Aujourd'hui, Ben Lefeuté, le jour où nous enregistrons cette émission, c'est à la veille de la grande mobilisation que vous avez appelé pour la fin octobre, le dernier week-end d'octobre. Est-ce que vous pensez que c'est fichu? Vous attendez simplement le résultat des expertises ou est-ce qu'il y a encore des raisons de vouloir défendre cette zone humide qui a déjà été très malmenée puisqu'elle n'a plus d'arbres? On a embarqué une partie de sa population animale pour aller la mettre ailleurs.
Bah, ce qu'il y a encore à défendre, c'est la zone humide, parce que certes, elle a été déboisée, mais elle n'a pas été décapée. C'est-à-dire que l'humus est encore là, les racines, il y a déjà des jeunes pousses qui redémarrent. Alors certes, une zone humide comme celle-ci remettra sans doute, si ça reste en l'état, des siècles à se reconstituer de manière aussi riche, aussi diversifiée. Mais la forêt, la zone humide peut repousser si le projet était gelé en l'état. Donc ça, c'est la première chose qu'on cherche à sauver. La deuxième chose, c'est qu'on cherche à empêcher ce barrage d'aller jusqu'au bout, parce que c'est le modèle agricole qu'il soutient qu'on veut empêcher. Et donc ça, il y a encore un an de chantier avant qu'il y ait de l'eau dans ce barrage. Donc ça, c'est vraiment une mobilisation importante qui nous motive. Et puis derrière ça, même si celui-ci allait jusqu'au bout, on sait que notre mobilisation va influencer l'avenir des barrages dans le sud-ouest. On élargit cette bataille à l'échelle Adour-Garonne où la CCG sévit à un niveau beaucoup plus large. Et donc, tout l'enjeu de cette bataille, au-delà de la zone humide du testé, c'est d'empêcher l'agriculture irriguée de perdurer à l'avenir au détriment des ressources naturelles et au détriment des finances publiques. Et puis qu'enfin, les discours prennent réalité sur le terrain, l'agroécologie, l'agriculture paysanne, tout ce que nous annoncent les officiels comme étant le grand tournant à prendre pour le 21e siècle. Bah, on ne le voit pas encore avec le barrage de Sivens, mais on espère qu'avec cette lutte, demain, il n'y aura plus de barrage de Sivens, le même type de barrage, et qu'enfin, on va aller vers des filières courtes, des producteurs qui produisent pour la population locale, qui fournissent les cantines scolaires, qui fournissent les hospices, qu'on va réduire très fortement les transports qui sont aujourd'hui très importants dans l'agriculture. Donc voilà, c'est une lutte qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus large que le barrage de Sivens uniquement. C'est vraiment réformer l'agriculture, faire en sorte que l'argent public soit mieux utilisé, que les débats d'aménagement du territoire soient menés avec la population locale. Et donc c'est quelque chose qui nous motive, qui va bien au-delà de ce qu'on a perdu au niveau du déboisement de la zone humide. Et c'est pour ça qu'on continue et qu'on aura beaucoup de monde, je pense, ce week-end, qui viendra aussi manifester dans ce sens.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens concernant le barrage du Testé. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Cédric Chatelus, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous, la semaine prochaine, nous reparlerons du Testé.